À l'occasion du salon d'édition indépendante Offprint 2022, Dieu réalise une série d'entretiens avec des éditeurs, graphistes et artistes. Ce programme est réalisé en partenariat avec le Centre national des arts plastiques. Oriane Preud'homme pour la revue Phylactère, cofondée avec Roxane Maillet, en discussion avec Victoire Lebars.
Salut Oriane, ça va ?
Bonjour Victoire, ça va et toi ?
Bien. Est-ce que dans un premier temps déjà tu peux te présenter, t'es artiste, designeuse, est-ce que voilà, tu peux en tout cas présenter les contours de ta pratique ?
J'ai une formation de graphiste, j'ai fait des études aux Beaux-Arts de Lyon et à la Werkplatz Typographie aux Pays-Bas. Et c'est surtout lors de mon master que j'ai commencé à développer une pratique de performance et d'écriture. Le graphisme, c'est toujours quelque chose qui intervient dans ma pratique, soit par des intérêts de projets auto-initiés ou bien des commandes, en fait, surtout dans le monde de l'édition, on va dire. Donc voilà, j'ai un peu toujours cette double casquette et je trouve que Phylactère, c'est un peu genre le reflet de ces deux intérêts-là qui se rejoignent.
Alors justement, donc, on est là aussi pour parler de la revue Phylactère que tu as cofondée avec Roxane Maillet, qui est aussi designer graphique, entre autres. Donc cette revue, elle a vu le jour en 2019 et aujourd'hui, il existe deux volumes de cette revue. Est-ce que tu peux présenter la revue et comment l'idée de cette revue, elle a émergé Il me semble que c'était à Marseille, non ? C'était lors d'une résidence
ouais, c'est ça.
À Marseille.
C'est ça, en fait, avec Roxane Maillet, qui est la cofondatrice avec moi de la revue, on s'est vite rendu compte qu'on avait des intérêts communs pour la performance et ses retranscriptions. Donc, pour contextualiser un peu, Roxane, elle a fait l'ergue à Bruxelles. Et à cette époque, elle avait créé un espace qui s'appelait le Cave Club au sous-sol de son appartement où elle invitait des meufs à faire des lectures de textes inédits qu'elle retranscrivait ensuite par des sortes d'éphéméras, enfin, des papiers, des petites éditions, des zines, etc. Et moi, pour ma part, comme je le disais, lors de mon master, je m'intéressais beaucoup à la performance et il y avait toujours un rapport à l'objet imprimé qui intervenait soit avec un intérêt pour le script ou soit pour des formes de retranscription. On s'est vite dit qu'il fallait qu'on crée une revue. Roxane avait rencontré Camille Vidcock, qui est la coéditrice du projet d'édition avec Liv Schulman, et elle savait qu'elle avait une résidence qui s'appelait Entrée Principale à Marseille. Ça s'est fait assez spontanément et naturellement. Déjà, on lui a posé des questions parce qu'on savait qu'elle avait une maison d'édition et on voulait un peu savoir comment ça fonctionne, en fait, tout simplement. Enfin, elle s'est rendue compte aussi qu'elle avait énormément d'intérêts communs avec ces questions de retranscription, d'oralité, de performance. Et c'est comme ça qu'elle nous a proposé d'intervenir lors de sa résidence Entrée Principale. Et elle a décidé d'éditer le premier numéro, puis le deuxième. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais en fait, pendant la résidence, c'était un format assez, pas très défini, dans le sens où on est resté un an entre Marseille et Paris. On a invité des artistes à performer dans l'espace de Camille Vidcock, qui s'appelle Rond-Point Project. Et en fait, ça s'est un peu fait... La revue s'est un peu créée en éditant un reader, en invitant des personnes. Ça s'est pas fait directement en mode bon bam, on va faire une revue, ça va ressembler à ça, ça et ça. C'était plutôt en créant toute cette ligne éditoriale ensemble à trois que le projet s'est développé.
Et bon, alors il y a deux numéros. Le premier s'appelle Patati Patata et le deuxième Oh là là. Donc, comment c'est venu cette... en fait, ça fait clairement référence à la parole et à l'oralité dont tu parlais précédemment. Donc, c'est un peu des onomatopées. Comment tu... Comment c'est venu ? Il fallait tout de suite que dans le titre, on sente qu'il y ait une espèce de processus de production qui passe d'abord par la parole.
Disons que ça s'est fait assez naturellement, cette question de... la question de l'onomatopée, elle est venue assez rapidement. Enfin, déjà, le titre, Phylactère, ça parle de de prise de parole et de matérialisation de la parole, puisque les phylacteres, c'est ces banderoles dans la peinture médiévale qui représentaient en fait des discours, des conversations, donc un peu l'ancêtre de la bulle des comics. Et du coup, en lien avec ça, on s'est dit qu'une onomatopée, c'était spontané, assez parlant en fait, et assez ouvert aussi pour pouvoir inviter des contributeurs et des contributrices à répondre à ça. Peut-être que je peux parler aussi, rebondir sur dans la note éditoriale du deuxième numéro, par exemple. Donc, c'est une conversation entre Mona Gérardin-Laverge et Camille Vidcock autour de Oh là là. Mona Gérardin-Laverge, qui est donc autrice et docteur en philosophie, elle a écrit un texte qui s'appelle « C'est en slogan qu'on devient féministe ». Et du coup, il y a toute cette symbolique en fait autour, enfin à la fois du slogan et pour nous de l'onomatopée, d'avoir quelque chose d'assez spontané, assez vif, assez criant et qui fait du bruit aussi. Donc ça, c'est un passage où Mona parle du coup. Il me semble que dans ton idée de rapprocher cette onomatopée, oh là là, du slogan, il y a cette réappropriation d'un bruit, avec toute la portée politique que cela implique au regard de cette histoire. On entend quelque chose de cet ordre-là, il me semble, dans la manière de scander certains slogans, comme « Ah, 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 anti-patriarcat », comme un cri de colère, l'émotion et l'affect sont mis en avant et en continuité avec le langage articulé. Que ce soit capitalisme ou patriarcat qui suivent le « Ah, ah », ce sont des termes qui ont un sens politique fort et qui portent une analyse très approfondie. J'aime beaucoup cette collusion entre l'onomatopée de la colère et le concept politique.
Donc, tu parlais la définition de phylactère et de ce symbole de banderole qui a directement inspiré le caractère phylactère, enfin, en tout cas de la couverture, et qui est aussi inspiré des calligraphies de Jean Larcher. Mmh. Et vous l'avez dessiné à deux, ce caractère?
Alors non, pas du tout, c'est Marie-Mame Sébélier qui l'a dessiné, qui est designeuse graphique et typographe. Donc oui, c'est un revival d'un caractère de Jean Larcher qui s'appelle Carnaval. En le voyant, c'est marrant qu'il s'appelle Carnaval, parce que c'est pas vraiment comme nous on l'interprète. Nous, on voit plutôt des rubans, des banderoles. Voilà.
Tu disais donc tout à l'heure, on parlait des performances. Comment ça se passe quand vous construisez la revue? J'ai vu qu'il y avait des extraits, par exemple, de One Woman Show, de performances qui ont déjà eu lieu. Mais est-ce que ces performances, elles sont écrites en vue que la revue soit publiée, ou est-ce qu'elles ont déjà eu lieu et c'est une archive aussi de ce qui a pu se passer?
Alors, il y a un peu des statuts différents. Effectivement, il y a des performances soit qu'on a organisées ou auxquelles on a participé, assisté, et qu'on retranscrit d'après tout ce matériel. C'est un peu les plus faciles à retranscrire, entre guillemets, parce qu'on était présentes et qu'on a tout le matériel disponible pour le faire. Et ensuite, il y a aussi des performances qui n'ont pas encore eu lieu ou qui sont en cours de conception. Donc, soit on a des captations audio de répétition ou bien des scripts avec un maximum d'informations qui nous permettent de saisir comment vont se dérouler ces performances-là. Et du coup, voilà, il y a un peu soit l'avant, soit l'après, mais nous, on s'approprie toujours un maximum de contexte. Enfin, on passe du temps à parler avec les artistes pour demander comment ça va se dérouler, est-ce qu'il y aura des accessoires, de la musique, une scénographie, des jeux avec la voix, etc. Et on se saisit de tout ce contenu pour ensuite le retranscrire à notre manière.
Est-ce que, je ne sais pas, il y a des moments où vous organisez des dîners et puis on discute en dehors du travail? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent pour construire cette revue et pour écrire ces performances?
Tu veux dire avec les artistes?
Ouais.
Ah pardon, oui, j'ai pas clarifié ça. Du coup, c'est pas un contenu qu'on demande de faire pour la revue, bien sûr. En fait, c'est nous qui invitons plutôt des contributeurs et des contributrices à répondre à la revue en cours de conception, parce que on connaît déjà un peu leurs pratiques, ou on sait sur ce qu'ils et elles sont en train de travailler, et c'est comme ça qu'on les sollicite. Mais c'est pas du tout un contenu qui est produit pour la revue. Donc voilà, après, la discussion, elle se fait plutôt sur quelle performance, quel travail serait le plus approprié par rapport à l'onomatopée choisie. C'est comme ça qu'on tisse des liens et qu'on les invite.
Et toi, en tant que donc t'es designeuse au départ, qu'est-ce que ça dit du designer qui prend la parole de cette manière, par la performance, par l'écriture? Parce que je me rappelle qu'au moment, par exemple, de mes études, moi, c'était pas quelque chose qu'on... C'est presque quelque chose qui a été un peu bloqué, quoi. Enfin, je veux dire, j'avais pas vraiment accès à prendre la parole de cette manière, en tout cas, en dehors du print et de ce que je pouvais mettre en place dans mon travail de designer. Comment c'est arrivé dans ton travail? La prise de parole.
Ah, tu veux dire...
D'écrire, de performer, comment c'est arrivé dans ton travail?
Ah, dans ma pratique personnelle, tu veux dire? C'est une bonne question. disons que mon rapport déjà à l'imprimé, il avait toujours... Il invoquait un peu toujours des questions de langage et de... Enfin, c'est assez logique, mais de matérialité, d'une forme d'oralité. J'ai eu assez rapidement, enfin, la verplastipographie, c'est une école qui est quand même assez ouverte et qui encourage pas forcément à avoir qu'une pratique de graphiste, mais aussi une pratique plutôt artistique ou d'écriture. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, en fait, et produire des performances. Et je me suis dit que, ouais, c'est assez, une continuité assez naturelle, en fait, finalement, par rapport au graphisme.
Est-ce que tu veux nous lire un autre extrait ou une référence que tu as apportée en lien avec la revue?
Oui, bien sûr. Du coup, ce qu'on fait souvent aussi dans la revue, c'est quand on pense à une nouvelle thématique, à une nouvelle onomatopée, on tombe parfois de manière fortuite sur des textes de référence ou des textes qui nous inspirent et qui nourrissent en fait la note éditoriale et aussi notre invitation aux contributeurs qu'on envoie aux contributeurs et aux contributrices. Et là, pour le coup, donc on est tombé sur un texte qui s'appelle The Gender of Sound de Anne Carson.
Donc Oh là là, c'est le titre du second volume de la revue.
Oui. Donc en fait, Anne Carson parle d'un poème du 7e siècle après Jésus-Christ, un poème grec qui parle de cris ritualistes produits par des femmes. Donc voilà, c'est en anglais. Donc elle analyse ce poème. The women are uttering a particular kind of shriek, the ololiga. This is a ritual shout peculiar to females. It is a high-pitched piercing cry uttered at certain climatic moments in ritual practice, for example, at the moment when a victim's throat is slashed during sacrifice, or at climatic moments in real life, for example, at the birth of a child, and also a common feature of women's festivals. The ololiga, with its cognate verb ololizo, is one of a family of words, including eulele, with its cognate verb elelizo, and alala, with its cognate verb alalazo, probably of Indo-European origin and obviously of onomatopoeic derivation. These words do not signify anything else except their own sound. The sound represents a cry of either intense pleasure or intense pain. On trouvait ça super drôle que Ololiga, Ololiza, Elele, Ololizo, enfin, ça ressemble pas mal à Olala. Après, c'est un rapprochement qu'on a fait, qu'on n'a pas vraiment vérifié pour savoir si c'est vraiment un lien ou pas, mais on aimait bien aussi cette dualité que ça peut signifier du coup un plaisir intense ou une douleur intense. Ça fait pas mal d'écho à l'onomatopée Olala qui parle de plaisir, qui parle d'énervement, d'agacement ou d'étonnement aussi.
Juste, je reviens sur la revue en tant qu'objet. Vous l'imprimez en RISO?
Oui.
La RISO, c'est quand même une technique d'impression marque déjà l'objet d'un style. Est-ce que pour les auditeurs, et tu peux expliquer déjà ce que c'est la RISO et expliquer aussi pourquoi vous choisissez de passer par cette technique d'impression-là?
Oui, alors la risographie, c'est... Je ne saurais pas dire de quand vient ce procédé d'impression, mais en tout cas, il fonctionne par couche de couleurs. C'est un processus qui demande, qui est assez fastidieux dans le sens où il y a énormément de gaspillage parce que il faut faire des calages, parce que il faut marquer le papier, il faut que l'encre elle s'imprègne du papier Donc, ça fait passer pas mal de feuilles. Et du coup, ouais, ça fonctionne par couche pour chaque couleur. Donc, c'est pour ça que nous, on se restreint, bon, c'est déjà pas mal, mais on se restreint à chaque fois que à 3 couleurs par numéro. Et aussi, le fait qu'il y ait énormément de gaspillage et il y a beaucoup de contraintes techniques qui font qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un nombre d'exemplaires exorbitants. Donc là, 500, c'est déjà hors limite enfin, par rapport à une édition qui fait 152 pages. Enfin, c'est quand même un travail assez important. Et en fait, on a décidé d'utiliser ce procédé d'impression parce que déjà, pour sa force graphique, en fait, c'est vrai qu'on se donne plein de liberté graphiquement et on trouvait que la risographie c'était en accord avec ce qu'on voulait représenter graphiquement. Et en fait, Camille Vidcock a une risographie à Marseille. Donc c'est nous qui imprimons avec l'aide de beaucoup de mains, de stagiaires qui viennent nous aider et construire la revue, à imprimer ensemble l'ensemble de l'intérieur de la revue en risographie.
Et la cover, elle est imprimée en extérieur
Ouais, c'est ça. Bah, là, les deux premiers numéros, c'était le cas. La première, c'était... Enfin, les deux sont en offset.
Ouais, OK. OK. Et je voulais revenir sur... c'est une revue, donc la revue, ça induit forcément une périodicité, qu'elle soit régulière ou irrégulière, mais en tout cas, qu'il y ait une suite. Et si on prend la revue au premier degré, on imagine que le format est défini au départ, que le premier volume, en tout cas, définit l'aspect graphique de la revue. Pour Phylactère, les numéros évoluent, c'est-à-dire qu'ils prennent des formes et des formats différents. Mm-hmm. Tu peux nous raconter comment ça a été pensé ou est-ce que c'est vraiment envisagé à chaque numéro Enfin, en tout cas, pas anticipé.
Ouais. Oui, alors en fait, nous, on s'est un peu donné des règles au départ qu'on suit. Mais par exemple, même si on ne dirait pas tout le temps, il y a quand même une grille de mise en page. on utilise tout le temps 3 typographies différentes et du coup 3 couleurs. Enfin, jusqu'à maintenant, c'était le cas. Mais après, c'est vrai qu'on se donne énormément de liberté parce que chaque contribution est designée différemment en fonction de la nature et la particularité des performances qu'on a envie de mettre en avant. Enfin, c'est un peu une sorte de... on essaie vraiment de créer des sortes de didascalies visuelles par la typographie et la mise en page. Et du coup, ouais, on se donne beaucoup, beaucoup de liberté. Donc finalement, même si y a des règles, on les contourne pas mal et on aime que c'est un espace un peu exutoire par rapport à des contraintes de designer graphique qu'on peut avoir, dans le sens où on se donne beaucoup de liberté, on se dit que chaque numéro peut avoir un format différent. Aussi en termes de contenu, ce qu'on reçoit des contributeurs et des contributrices, on essaye de pas couper le texte, quoi, pas éditer les textes, d'être vraiment au plus proche de l'entièreté de la performance. Donc, y a des contributions qui peuvent faire 30 pages, d'autres qui peuvent en faire qu'une. C'est assez différent, assez foisonnant à chaque fois, même si je pense qu'il y a un systématisme qu'on peut retrouver d'un numéro à l'autre.
Mais c'est aussi ce que permet l'édition indépendante, de pouvoir justement se permettre de consacrer 20 pages à un objet, à une performance. Et comment... Enfin, tout à l'heure, on parlait de la RISO, que tu imprimais la couve en extérieur. Et comment vous financez... Alors, c'est soutenu par le CNAP, mm-hmm. mais comment vous avez... Tout à l'heure, on en parlait avec le collectif des Tipotes. Est-ce que vous avez mis en place des cagnottes ou des soirées, je sais pas, pour financer la revue?
Alors non, on n'a pas eu des systèmes de cagnottes. En fait, le premier numéro, il me semble qu'on a une subvention régionale par le biais de Camille Vidcock, qui a aussi un espace. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à produire le premier. Mais il faut savoir que on n'avait pas rémunéré les contributrices et les contributeurs pour le premier numéro. Mais pour le second, on s'est dit que c'était... à partir de maintenant, du second et ceux d'après, c'est un peu la condition sine qua non pour continuer la revue. Donc là, en l'occurrence, on a une résidence au Centre d'art contemporain Chanot qui nous ont subventionné une partie de la revue. Et il y a eu l'aide du CNAP. Donc c'est comme ça qu'on a pu produire la revue, même si nous, par exemple, on ne s'est pas hyper bien payé. Mais bon, ça fait partie aussi du fait que c'est notre projet. Et voilà, c'est grâce à ça. Et après, comme tu le disais tout à l'heure, on ne respecte pas une périodicité définie dans le sens où on a envie de faire ça déjà quand on a du temps, parce que c'est un travail qui est presque bénévole. Et aussi, quand on arrive à avoir des subventions, l'idée, c'est vraiment qu'on arrive déjà à payer tous les contributeurs et les contributrices, nous, un petit peu, et qu'on est vraiment en dehors de notre pratique personnelle, assez de temps pour travailler dessus, quoi. Je pense que les prochaines fois, ce sera ça aussi, essayer de trouver des systèmes de résidence, de subventions, etc., pour que ça existe.
Merci Oriane Prudhomme d'avoir accepté de discuter avec nous de la revue Phylactère cofondée avec Roxane Maillet.